Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et merci d'être avec nous ce soir. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivier Lecourt-Grandmaison, donc professeur de sciences politiques et philosophie politique à l'Université de Paris, Val d'Essonne, Saclay. Voilà. Et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale en particulier, question dont on va parler ce soir. Et ce soir, Olivier Lecourt-Grandmaison vient nous présenter « Racisme d'État et État raciste, une brève histoire » paru il y a quelques semaines aux éditions Amsterdam. Il va nous présenter le livre. Ensuite, on laissera la place aux questions, comme d'habitude. La rencontre est enregistrée, donc si vous avez envie de faire circuler, dans quelques semaines, elle sera en ligne sur notre site et sur celui de Canal Sud. Voilà, donc je remercie aussi publiquement les éditions Amsterdam de la confiance qu'ils nous accordent pour organiser des rencontres autour de leur parution. Et je remercie aussi Olivier d'être venu de Paris pour l'occasion. Voilà, merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Bonsoir.
Oui, c'est mieux comme ça. Merci pour l'invitation. Je voudrais en préciser les termes parce que c'est pas simplement pour me plier aux règles des civilités élémentaires, mais parce que j'ai la faiblesse de croire que cette invitation n'est pas une invitation privée, on ne se connaît pas, mais une invitation politique. Non pas qu'il s'agit de souscrire forcément à tout ce qui est écrit dans « Racisme d'État, État raciste, une brève histoire », le problème n'est pas là, mais parce que ce type de livre, et ce n'est pas un plaidoyer pro-domo, parce que ce type de livre, et ça concerne toutes celles et tous ceux qui travaillent globalement sur ces questions, sur la question du colonialisme, sur la question des réparations, sur la question, toutes les questions afférentes à la question décoloniale. Nous nous heurtons, le nous étant évidemment là un nous collectif, à ce que j'appellerais, ça peut paraître un oxymore, une forme de censure démocratique, laquelle ne passe plus grossièrement par le fait d'interdire des articles ou des ouvrages, ou alors exceptionnellement, très exceptionnellement, ou par des blancs, comme on disait autrefois, dans la presse. Sur le fond, il suffit de ne point parler d'un livre pour qu'il n'existe pratiquement pas, que les questions qu'il cherche à modestement à faire surgir dans l'espace public ne soient pas posées, et que les réponses éventuellement apportées ne soient pas non plus. Et donc j'ai la faiblesse de croire, eu égard à l'involution, me semble-t-il quand même très spectaculaire, de la situation politique, que ce type d'initiative est très précieux, parce que ça permet de tempérer autant que faire se peut ces effets de censure, qui sont sur ce type de thème particulièrement importants, parce que c'est imposer une sorte de vérité politique et médiatique qui a peu à voir avec la réalité, mais qui fonctionne très bien, qui est même quasiment devenue une sorte de vérité officielle, défendue par des essayistes pressés, excusez-moi du pléonasme, par des propagandistes qui se croient encore journalistes. Globalement, ça fonctionne à peu près, la rhétorique fonctionne comme ça. Les catégories de racisme d'État, d'État raciste, de xénophobie d'État, de racisme institutionnel seraient des catégories forgées aux États-Unis, d'une part, et d'autre part, forgées aux États-Unis par des militants afro-états-uniens radicaux. Et on voit bien, dès lors que ce type de dispositif rhétorique et politique et idéologique se met en place, comment la disqualification fonctionne. Le premier élément, c'est, un, il s'agirait de catégorie états-unienne, donc inapte et inepte pour rendre compte des réalités françaises. Alors, au motif, c'est assez développé, si j'ose dire, eu égard à l'auteur par quelqu'un, mais il y en a une foule d'autres, par exemple par Pascal Bruckner. Le second élément rhétorique tendant à la disqualification, c'est évidemment de faire croire qu'il ne s'agit pas de concept, mais qu'il s'agit de vocifération de militants indignés contre des réalités qui, certes, existent aux États-Unis, mais évidemment dans le doux hexagone et dans notre magnifique République, il ne saurait exister parce que, après avoir été la fille aînée de l'Église, la France est devenue, bien sûr, la fille aînée des Lumières, de la Révolution, des déclarations de droits de l'homme et du citoyen, auxquelles il faut ajouter, bien sûr, c'est toujours très glorieuse, tradition républicaine. Ce que j'appelle l'exceptionnalisme français, néologisme ou pas, peu importe, forgé pour signifier ceci, qu'il s'agit bien d'une construction politique, discursive et idéologique, et pour évidemment marquer mes distances par rapport au vocabulaire officiel sur l'exception française qui est déclinée ad nauseam dans toute une série de circonstances. La conséquence, si je puis dire, de cet exceptionnalisme français, c'est ce que j'appelle la mythologie immunitaire. C'est-à-dire que la France ne pourrait pas, en raison de ses traditions et en raison de ses remarquables ses immunités, ne pourrait pas être affectée de mots similaires, racistes, à ceux qui affectent, par exemple, les États-Unis, la Grande-Bretagne, éventuellement l'Australie, Nouvelle-Zélande ou d'autres pays, mais qui ne sauraient véritablement exister en France. Non pas que celles et ceux qui tiennent ce langage considèrent qu'il n'y a pas de racisme en France, mais ce racisme ne peut être que résiduel, ou plus exactement, il ne peut être que individuel, une somme de comportements individuels. Antiracisme auto-qualifié par ceux qui le défendent comme antiracisme dit moral, je récuse leur auto-qualification qui est une auto-promotion, qui tente à faire en sorte que ceux qui promeuvent ce type d'antiracisme s'accordent à eux-mêmes une sorte de monopole politico-moral sur la question de l'antiracisme, alors même que leur antiracisme n'est pas particulièrement moral, le problème au fond n'est pas là, mais l'antiracisme politique ne l'est ni plus ni moins. Et surtout, ce qui me paraît essentiel dans cet antiracisme, c'est qu'il est fondamentalement individualiste. Et qu'encore une fois, il repose sur la thèse selon laquelle les pratiques racistes, les conduites racistes, les propos racistes n'ont strictement rien à voir avec les institutions, moins encore, bien sûr, avec les beautés de l'État républicain. Et elles ne sont au fond que la somme de comportements individuels liés, comme aurait pu le dire Bourdieu, un déficit de capital culturel ou de capital académique de la part de ceux qui ont ce type de comportement. Autrement dit, ce type de comportement, comme les comportements dits sexistes, homophobes, islamophobes, romanophobes, seraient d'abord avant tout des comportements liés aux classes pauvres, culturellement, et intellectuellement et académiquement, qui, en plus d'être pauvres, seraient éventuellement dangereuses, parce qu'elles auraient des propensions, ou leurs membres auraient des propensions au racisme, à l'antisémitisme, etc., etc., plus importantes que les catégories réputées supérieures. Ce qui, historiquement, est assez facilement falsifiable, comme on dit, c'est-à-dire il est tout à fait possible de montrer que, en général et dans l'histoire de France en particulier, Le racisme n'est pas une invention, si je puis dire, des classes populaires, mais le racisme est une invention élitaire, savante, des élites républicaines, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et constitutive, l'ensemble de ces inventions, de ce qui a été d'un racisme d'État sous la Troisième République, et de ce qui a été également appelé un racisme républicain. Alors évidemment, là, l'expression fait bondir, tomber de leur chaise, les républicains bontins, parce qu'ils perçoivent ça immédiatement, soit comme une sinistre provocation qui témoigne d'une ignorance crasse, soit d'une proposition qui est contradictoire dans les termes et qui s'annule dès lors qu'elle est prononcée. Donc l'un des objectifs du livre était de rappeler que contrairement à ce qui nous est asséné, donc à cette espèce de vérité politico-médiatique, que la catégorie de racisme d'État, la catégorie de xénophobie, de racisme institutionnel, et c'est aussi une façon de lui rendre hommage, la catégorie de racisé ne sont pas des inventions états-uniennes, mais sont des inventions nationales, mais sur le fond, peu importe. Après tout, la validité d'un concept n'est pas liée à sa nationalité. Et c'est une absurdité palpable. Enfin, je veux dire, la validité d'un concept, il est lié, pour employer cette métaphore empruntée à Spinoza, il est lié à ceci, la validité d'un concept est liée à ceci, que est-ce qu'il nous permet de voir mieux, de voir de plus loin et de distinguer les détails, puisque fondamentalement, penser, c'est distinguer. Si un concept remplit ses fonctions, j'ai la faiblesse de croire qu'il est adéquat et qu'il est utile et donc utilisable, et que la question de savoir où et quand il a été forgé, il a en tout cas sa nationalité, est absolument sans aucune importance immédiate. Et rappeler donc, puisque la catégorie de racisé a été forgée par Colette Guillaumin dans un ouvrage très important qui est sorti quand il est sorti à l'époque, mais aujourd'hui encore, sans doute faudrait-il dire plus encore, c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il vient d'être réédité, l'idéologie raciste dans lequel elle forge ce concept et évidemment le met en œuvre pour mettre au jour ce qu'elle cherche à mettre au jour, à savoir justement un racisme qui ne relève pas d'une somme de comportements individuels. Par ailleurs, relativement à la catégorie de racisme d'État, le concept émerge non pas sous la plume, enfin peut-être sous la plume d'ailleurs, aussi, parce que je pense qu'il rédigeait une partie de ses cours, de Michel Foucault, dans un cours célébrissime qu'il prononce au Collège de France en 1976, donc ce n'est pas exactement hier, qui s'appelle « Il faut défendre la société ». Soit dit en passant d'ailleurs, lorsque ce cours est prononcé, j'ai fait quelques recherches. Aucun membre du gouvernement de l'époque, Alice Sonnier-Céité, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, et le ministre de l'Intérieur, dont le nom m'échappe, qui devait être Marcellin ou un autre, qui n'était pas connu par sa mansuétude par ailleurs, n'ont jugé bon d'émettre des critiques à l'endroit du cours de Michel Foucault, à la différence de nos très modernes libéraux, qui, lorsque le syndicat Sud a cherché à organiser une réunion pour discuter de la question du racisme d'État, à quoi s'ajoutait un scandale qui redoublait le scandale premier des réunions en non-mixité. Jean-Michel Blanquer, pour ne pas le nommer, s'est immédiatement saisi de cette affaire pour faire une déclaration tonitruante à l'Assemblée nationale et redoubler l'attaque à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, puisque là, il s'en est pris, non pas seulement à un syndicat, mais à l'institution universitaire dans sa globalité, au CNRS et aux chercheurs, en accusant celle-là et cela d'être le promoteur de ce qui est devenu un grand mot valise où chacun met à peu près ce qu'il veut, sachant que maintenant, c'est une rhétorique et une accusation qui fonctionne à peu près pour tout. Et évidemment, l'accusation de wokisme et d'islamo-gauchisme. C'est pourquoi la très docile, à l'époque, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, dont j'ai oublié le nom, sans doute, c'est évidemment pas un hasard du tout, a diligenté une enquête pour essayer de savoir ce qu'il en était des terribles influences de l'islamo-gauchisme dans les universités et au CNRS, enquête qui n'a jamais débouché, parce que sans doute, il n'y a pas vraiment d'objet à chercher. Et donc, rappeler que Michel Foucault utilise la catégorie de racisme d'État quand Michel Foucault réfléchit à ce qu'il considère comme étant un bouleversement à la fois philosophique, politique et en partie juridique, et des représentations bien sûr aussi, avec l'avènement de ce qu'il nomme la biopolitique, c'est-à-dire une politique qui prend de plus en plus en charge la vie au sens biologique du terme, qu'il faut distinguer de l'existence, qui la prend de plus en plus en charge, qui est amené à s'en occuper et parfois aussi à proposer des politiques qui, pour un certain nombre de contemporains, vont être jugées éventuellement intrusives parce qu'elles pénètrent dans des domaines dans lesquels cette politique ne pénétrait pas antérieurement. Et globalement, ceci débouche sur, à la fin du 19e, début du 20e siècle, avec l'avènement du racisme dit scientifique, sur effectivement des politiques publiques qui vont s'institutionnaliser progressivement et déboucher sur la construction d'un État hygiéniste dont la fonction est effectivement, pour reprendre le titre du cours de Michel Foucault, de défendre la société et ses membres contre des périls sanitaires, alors qu'ils ne sont pas simplement des périls sanitaires des classes pauvres, c'est le cas aussi, ce n'est pas simplement des périls sanitaires liés à la pauvreté ou aux dispositions et à l'organisation urbaine de la ville, c'est aussi des périls sanitaires provoqués alors soit par des races extérieures à la métropole, c'est le cas des races dans les colonies, qui ne sont pas simplement, en général et en particulier, stigmatisées, infériorisées, mais qui se voient, c'est à peu près la règle pour toutes les catégories racisées, qui se voient imputer des caractéristiques dangereuses sur le plan à la fois moral, bien sûr de l'ordre public, et sur le plan sanitaire. Et globalement, je ne connais pas de racisme et d'antisémitisme qui ne soit pas aussi mixophobe, c'est-à-dire qui ne soit pas aussi hanté par la peur du métissage, le métissage étant évidemment pensé dans les représentations racistes et antisémites comme ce par quoi les qualités prétendument remarquables de la race supérieure, qualité morale, qualité physique, qualité sanguine, vont être perverties par des mélanges réputés coupables. D'où l'émergence de ce que Michel Foucault appelle, entre autres, un racisme d'État dont la fonction va être donc de défendre le groupe dominant, la race dominante, alors soit contre des races extérieures, soit aussi, et Michel Foucault attire l'attention là-dessus, des races qui se trouvent sur le territoire national ou des catégories qui sont évidemment racisées et qui se trouvent sur le territoire national et qui sont perçues comme faisant peser, elles aussi, des menaces qu'on peut aujourd'hui qualifier, même si les termes n'étaient pas employés à l'époque, qu'on peut au fond aujourd'hui qualifier de menaces existentielles, parce que, eu égard à la gravité de ces menaces. Alors, il s'agit de cours de Foucault où il s'avance parfois très rapidement, et d'ailleurs il en est parfaitement conscient, il l'assume, en nommant ces incises, ces parenthèses, des cavalcades. À juste titre d'ailleurs, parce que parfois ça va très vite, parfois ça va trop vite, parfois c'est très suggestif, et parfois on reste un peu sur sa faim, parce que, encore une fois, Foucault prend le risque d'avancer des hypothèses dont il n'est pas forcément sûr qu'elles soient absolument valables. Il est interpellé sur un certain nombre de questions, donc il y revient dans les cours d'après. Ce qui fait que c'est à la fois parfois très subjectif et très suggestif et parfois insuffisant. Et un certain nombre de ces critiques ou de critiques ont été faites, notamment par, sur le plan des recherches coloniales, entre autres, je pense à Laura Stoller sur les questions coloniales, qui émet un certain nombre de critiques assez vives à l'endroit du cours de Michel Foucault et qui, en même temps, s'en inspire, reprenant elle aussi la catégorie de racisme d'État, pour la mettre à l'épreuve de ses propres objets de recherche. Et ce que j'ai été amené à faire à la fois dans ce livre et dans un précédent qui s'appelait « La République impériale, politique et racisme d'État », où j'utilisais donc le concept employé par Michel Foucault pour essayer de voir comment... Alors là, ce qui m'intéressait, ce n'était pas comment la Troisième République avait, par la grâce de Jules Ferry, entre autres, et de cela les Républicains et leurs alliés étaient très fiers, fait de la France la seconde puissance impériale du monde. Ce qui m'intéressait, c'était quelles ont été les conséquences de cette construction impériale sur la République et les institutions républicaines. Et dans ce cadre-là, donc, j'avais été amené à montrer que la Troisième République, effectivement, s'était constituée comme un État raciste dans les colonies, entre autres. Par ailleurs, cette catégorie d'État raciste va être, ou de racisme institutionnel et de xénophobie institutionnelle, va être également employé par Pierre Bourdieu dans deux occasions. Il ne s'agit pas d'ouvrages, il s'agit d'articles. La première de ces occasions, c'est l'occupation par les sans-papiers en août 1996 de l'église Saint-Bernard à Paris. Alors aujourd'hui, les sans-papiers existent comme sujet politique, à la fois individuel et collectif. Mais l'occupation de l'église Saint-Bernard en 1996, c'était la première fois où des hommes et des femmes en situation irrégulière, et donc exposés évidemment à des contrôles policiers, à des placements en centre de rétention administratif et donc à des expulsions, prenaient le risque de s'affirmer justement comme des sujets politiques individuels et collectifs et d'apparaître au grand jour et de récuser l'accusation, enfin la terminologie qui leur était opposée, à savoir la terminologie de clandestins, parce que clandestins, ils ne sont pas, et la récuser et donc s'affirmer comme sans-papiers pour exiger leur régularisation. Et la réaction du pouvoir va être à l'époque très brutale, puisque Jean-Louis Debré, à l'époque ministre de l'Intérieur, est devenu président du Conseil constitutionnel par la suite. Belle carrière. Ce qui prouve que le... Enfin, bref. Enfin, c'est peut-être parce qu'il a été un excellent ministre de l'Intérieur qu'il est devenu président du Conseil. Je n'en sais rien. Passons. Donc, envoie les CRS dans l'église Saint-Bernard, lesquels défoncent la porte de l'église, arrêtent hommes, femmes et mineurs et les placent massivement dans un centre de rétention, entre autres à Vincennes, qui a été un centre de rétention dans lequel les militants du FLN, après la manifestation du 10 octobre 1961, ceux qui n'avaient pas été massacrés et jetés dans la Seine, se sont retrouvés internés avant leur expulsion dans, selon l'expression consacrée du pouvoir de l'époque, leur douar d'origine. Et Pierre Bourdieu estime que cet acte qui va susciter des réactions indignées de la gauche socialiste, entre autres, mais pas uniquement, estime qu'il est fort bien et sans doute très nécessaire de condamner la violence de la répression, mais que c'est sans doute nécessaire, mais très largement insuffisant si on ne remonte pas aux causes de l'acte. Et lui considère que l'acte n'est jamais que la traduction policière et violente d'une politique publique qu'il estime être une politique publique de xénophobie d'État. Et que par conséquent, c'est ainsi qu'il faut la qualifier, parce que c'est ainsi qu'elle fonctionne. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle est assumée, dans la mesure où l'étranger, là, est effectivement pensé déjà comme faisant peser une menace pour l'ordre public, pour la sécurité des comptes sociaux, et éventuellement pour l'emploi. La question de l'identité nationale à l'époque n'était pas particulièrement mise en avant, en tout cas pas pour les partis majoritaires et les partis de droite de gouvernement, comme c'est le cas sinistrement aujourd'hui. Et donc, Bourdieu estime qu'il faut ne pas s'en tenir à la, si je veux dire, à la matérialité de l'acte qui a été commis, mais encore une fois remonter à ses origines à la fois politiques, juridiques et du point de vue des représentations qui légitiment l'ensemble. Le second article dans lequel il utilise, alors là, la catégorie de racisme d'État, il part d'un, entre guillemets, de ce qui pourrait être interprété comme un fait divers, mais évidemment, Bourdieu ne se l'est pas dupé par le caractère fait divers du fait, parce qu'il ne s'agit pas justement d'un fait divers. Le point de départ de sa réflexion est une jeune femme étudiante dans une université de la République, et donc française, se fait demander ses papiers par un membre du personnel administratif au motif qu'elle a un nom qui paraît être d'origine arabe. Là aussi, là encore, Pierre Bourdieu ne s'en tient pas à ce qui s'est passé. Il estime que cet acte, ce personnel administratif, qui n'est pas un policier, qui n'est pas un gendarme, c'est un personnel administratif de l'université, donc, n'a pu avoir lieu que parce que ce membre du personnel administratif s'autorise justement d'un climat de xénophobie d'État et de racisme d'État pour, en croyant défendre le service public et assumer les fonctions qu'il croit être les siennes, s'autorise à effectivement contrôler la nationalité de la personne qui se trouve en face de lui. Dans un contexte où, à l'époque, la question des contrôles aux faciès est un objet qui est, à l'époque, encore extrêmement marginal. Il n'est pas accédé, hélas, à la dignité d'objet à la fois sociologique, politique et juridique. Et Bourdieu estime qu'il s'agit bien là de la manifestation d'un racisme d'État. De même, là, je vais... Achille Mbembe, à la suite des émeutes de novembre 2005. Alors, lorsque les émeutes de novembre 2005 ont lieu, il n'y a pas, dans le champ militant et dans le champ académique, de débat sur le terme à employer pour qualifier ce qu'il se passe dans les quartiers populaires, comme ça a été le cas après le meurtre de Naël au cours de l'été 2023, où, eu égard aux usages qui sont maintenant faits du terme émeute, nous avons, le nous étant évidemment un nous collectif une fois encore, considéré qu'il était préférable pas seulement parce que nos ennemis adversaires utilisent le terme d'émeute, mais parce qu'il nous semble que c'est plus adéquat pour rendre compte de ce qui se passe dans les quartiers populaires, de nommer cela révolte. Alors, c'est ce qui constitue la première partie du livre, en précisant qu'il ne s'agissait pas pour moi de mobiliser un certain nombre de grands auteurs afin que ça fonctionne comme argument d'autorité. D'abord parce que, encore une fois, c'est vrai pour Foucault, Bourdieu et Achille Mbembe, parce qu'Achille Mbembe, c'est également un article. Ce sont des textes, certes importants, mais dans certains cas aussi qui présentent un certain nombre de limites. Et donc, l'objectif était pour moi ensuite de mettre à l'épreuve le concept de racisme d'État, d'une part dans le contexte hexagonal d'abord, et dans un contexte international ensuite. Dans le contexte hexagonal, en suivant, parce que là Bourdieu n'est pas très disert sur la chose, mais il attire notre attention sur ce qui est souvent soit méconnu, soit euphémisé, soit carrément nié, sur les phénomènes d'importation en métropole de dispositifs, de dispositions qui ont été utilisées dans les colonies et qui vont fonctionner contre des populations racisées là vivant en métropole et dans certains cas d'ailleurs contre des étrangers pas forcément racisés et y compris d'ailleurs contre des nationaux. J'y reviendrai sur l'exemple. L'exemple le plus, alors pour moi l'un des plus spectaculaires, parce que je n'avais pas particulièrement travaillé sur le sujet jusqu'à présent, c'est celui de la romanophobie d'État, qui débute un jour du 16 juillet 1912 par le vote d'une loi qui impose aux gens du voyage et aux Roms, français et étrangers, pour les Français, une carte d'identité. Je rappelle que la carte d'identité à l'époque n'existe pas pour les nationaux. La carte d'identité ne va devenir obligatoire que sous le régime de Vichy, supprimée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, rétablie dans des circonstances d'exception qui sont celles de la guerre d'Algérie, aujourd'hui devenue évidemment maintenue obligatoire. Donc lorsque le dispositif de la carte d'identité est imposé aux nomades français, il s'agit bien effectivement d'une disposition discriminatoire qui vise à surveiller et à pouvoir suivre et à pouvoir identifier une catégorie racisée, pensée comme dangereuse, portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes et portant atteinte à la sécurité sanitaire. Relativement aux étrangers, il se voit imposer un carnet anthropométrique. Là aussi, très intéressant, le carnet anthropométrique a été forgé par Bertillon. À l'origine, le carnet anthropométrique a pour origine de permettre la constitution de fichiers d'hommes et de femmes ayant commis des crimes particulièrement graves et permettre leur suivi en cas de récidive. Et on voit comment un dispositif d'identification qui est au départ mobilisé pour des catégories qui ont commis effectivement un crime est désormais utilisé pour des catégories qui n'ont commis aucun crime mais dont le seul crime, entre guillemets, est d'appartenir à des catégories racisées dont on estime qu'il faut désormais suivre leur mouvement sur le territoire national. C'est effectivement ce qui va se passer, se pose un problème dans le cas des Roms et des gens du voyage, quand bien même ils sont étrangers. C'est qu'à la différence des Noirs, comme on dit à l'époque on dit plutôt nègres d'ailleurs, à la différence des nègres, des jaunes, etc., ils ne sont pas immédiatement identifiables par leurs traits morphologiques. Et donc, comment faire pour faire en sorte que la vaillante police très républicaine, et les citoyens bien sûr, arrivent à identifier ceux qui sont désormais identifiables par leurs papiers? Les républicains ont trouvé la parade. Ils vont imposer aux véhicules utilisés par cela la mise en place d'une plaque d'immatriculation. Et comme disait Foucault, étant très attentif d'en surveiller et punir aux détails, qui évidemment là n'en sont pas du tout, parce que chacun sait que dans les détails, c'est évidemment le diable qui se loge. Et là, ce n'est pas le diable qui se loge. C'est la République en tant qu'elle veut effectivement être capable de suivre quasiment jour après jour les catégories qu'elle vient d'identifier comme dangereuses. Et donc, la loi va
jusqu'à définir la taille des chiffres et des lettres, afin qu'évidemment, ces chiffres et des lettres puissent être lus relativement, de relativement loin. Et par ailleurs, il est prévu d'écrire « loi du 16 juillet 1912 » et d'ajouter à la mention « loi du 16 juillet 1912 » une apostille permettant de certifier que la plaque a bien été délivrée par le ministère de l'Intérieur. Il s'agit donc bien de rendre visibles des catégories racisées qui étaient perçues comme invisibles et qui sont étaient perçues comme d'autant plus dangereuses qu'elles étaient réputées invisibles. La loi de 1912 va traverser toute la Troisième République, Front populaire compris, dont certains nous disent que ça a été l'acmé de l'émancipation et de l'attention aux classes travailleuses. Oui, blanches, oui, françaises, oui. La condition des indigènes n'a pas changé d'un iota. Ils étaient des sujets français privés des droits et libertés démocratiques avant mai-juin 1936. Ils se voyaient opposer dans les colonies des dispositions répressives discriminatoires formalisées dans le Code de l'indigénat de 1875. Il est maintenu après mai-juin 1936. La condition des Roms et des nomades, pareillement, soit dit en passant, la condition de vous, mesdames, à l'époque, pareillement, vous étiez des mineurs politiques avant mai et juin 1936, vous êtes des mineurs politiques après juin 1936, puisqu'il faut attendre l'ordonnance de 1944. Sur les beautés sexistes de la Troisième République, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Mais enfin, bref. Parce qu'on a affaire là aussi à un sexisme d'État parfaitement assumé, défendu, y compris par des partis qui étaient à l'époque progressistes. La Troisième République, au tout début de la drôle de guerre, va interner, avant même l'occupation du territoire national par les troupes allemandes, va interner en masse les populations nomades, les assigner à résidence. Rétablissement des institutions républicaines, 1946. Préambule de la Constitution de la 4e République qui rappelle, étant donné ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et la destruction des Juifs d'Europe, que toute discrimination, quelles que soient les origines, sont désormais jugées parfaitement illégitimes et républicainement inacceptables. Ça fait partie du préambule de la 4e République. Oui, inacceptable pour beaucoup, pas pour les nomades et les Roms, puisqu'il faut attendre la première réforme, j'ai bien dit réforme, j'ai pas dit abrogation de la loi, 1969. Où, effectivement, le législateur réforme la loi, parce qu'il y a au moins un dispositif qui n'a plus lieu d'être, c'est évidemment la carte d'identité, puisqu'elle a été imposée à l'ensemble des nationaux. Par contre, est maintenu ou établi des quotas d'installation dans les communes. C'est-à-dire, puisque certains nous disent que le seuil de tolérance, cette chose horrible, qui a pu exister dans les États-Unis au temps de la ségrégation. Évidemment, la France n'a jamais mangé de ce pain-là. Mais la France a mangé de ce pain-là. Et la France républicaine de la 5e République a mangé de ce pain-là, puisqu'effectivement, dans la loi de 1969, les maires disposent de la possibilité, et lorsque le nombre de nomades sur le territoire de leur commune dépasse un certain seuil, de refuser leur installation sur le territoire de leur commune. Autrement dit, il s'agit bien, d'une part, d'atteinte à deux droits fondamentaux, d'une part, la liberté de circulation sur le territoire et d'autre part, la liberté d'installation. Et il faut attendre 2017 pour que les dernières dispositions discriminatoires à l'encontre des Roms et des gens du voyage soient enfin abrogées. Régissons-nous. Sauf que, comme chacun sait, à moins d'être, de souffrir d'une cécité particulièrement prononcée, mais les concepts sont faits pour rétablir la vue, il est clair que l'abrogation des dispositions s'est conjointe avec le maintien de politiques publiques romanophobes d'une particulière brutalité, parce que je ne connais pas en France de population racisée qui soit soumise de façon réitérée, récurrente, à de telles violences policières, sociales, conjointes de l'État et des communes, visant à précariser toujours plus des populations déjà précaires, et là aussi, et là encore, à porter atteinte à des droits fondamentaux, non pas seulement des adultes, mais également des enfants, lesquels, en raison de la précarisation et de la destruction quasi systématique des bidonvilles, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, sont dans l'impossibilité de suivre une scolarité normale. La France, terre d'accueil, grand mythe républicain, en partie forgé par Jules Michelet, repris par beaucoup d'autres, qui fait partie là aussi de l'exceptionnalisme français, de la mythologie immunitaire, dont on nous rebat les oreilles, en utilisant la formule pour justifier l'aggravation constante des dispositions adoptées à l'endroit des exilés en général, humanité et fermeté. Pardon, sauf que la balance penche désormais quasiment exclusivement du côté de la fermeté. Ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est plutôt structurel que conjoncturel. Il y avait jusqu'à le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, trois exceptions à la règle de l'inhospitalité d'État. Et en rappelant que, je fais un tout petit retour en arrière, l'internement administratif, disposition exorbitante du droit commun, donc disposition extraordinaire, c'est pensé comme tel par les juristes de la Troisième République et notamment les spécialistes du droit colonial, l'internement administratif a d'abord et avant tout été massivement appliqué dans les colonies. Processus assez classique d'extension, banalisation d'une disposition d'exception, cette loi d'exception, plus elle a été utilisée dans les colonies, moins elle est apparue comme une loi d'exception, plus elle est apparue comme une loi ordinaire. Et au terme de ce mouvement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'importation en métropole de l'internement administratif. Par qui? Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur en 1938, ancien gouverneur général de l'Indochine, plusieurs fois ministre des colonies, qui, par intérêt personnel et professionnel, est particulièrement au courant, évidemment, des dispositions discriminatoires dans les colonies, qui importe l'internement administratif en France, qui va désormais fonctionner contre ceux qu'on appelle à l'époque les étrangers indésirables. Déjà. Qui vont faire les frais de cette affaire? En général, ici, vous connaissez la chose. Évidemment, les 450 000 réfugiés républicains espagnols dont le seul tort est d'avoir franchi une frontière internationale et qui vont être immédiatement placés dans des camps. Sauf à mesurer le terme radicalement du terme accueil, il est difficile de considérer qu'ils ont été accueillis. Je rappelle qu'entre juillet... janvier et juillet 1939, 15 000 d'entre eux vont mourir dans les camps d'internement en raison des conditions sanitaires qui leur sont imposées, conséquence aussi du glorieux accueil qui leur a été accordé. Un certain nombre d'entre eux vont rentrer à leurs risques et périls dans l'État espagnol. D'autres vont poursuivre leur périple en Amérique latine, Chili, Mexique notamment. Et l'internement administratif va poursuivre, si je puis dire, sa course à la banalisation, puisque l'internement administratif, alors, dans des conditions qui sont beaucoup plus juridicisées et protectrices que ce qu'il était à l'origine, évidemment, va devenir un instrument essentiel de régulation des flux migratoires. Oui, bien sûr, il a été utilisé également contre les juifs français et étrangers. Et donc, les exceptions à ce que j'appelle, moi, l'inhospitalité d'État, c'est trois événements. 1973, coup d'État au Chili, où effectivement, d'une part, l'ambassade de France à Santiago, l'ambassadeur va prendre sur lui d'accueillir dans les locaux même de l'ambassade de très nombreux réfugiés chiliens rapidement dans des conditions terribles parce que, évidemment, l'ambassade n'était pas exactement prévue pour ça. Le gouvernement français de l'époque va effectivement, véritablement, là, accueillir des réfugiés chiliens en leur octroyant très rapidement une protection internationale et donc l'ensemble des droits afférents à l'octroi de cette protection. Trois ans plus tard, le général Videla, de l'autre côté de la frontière, commet également un coup d'État, pareillement pour les réfugiés argentins. 1979, Boat People. Alors là, il s'agit non pas à proprement parler au départ d'une initiative des pouvoirs publics, mais d'une initiative d'un certain nombre d'associations et d'intellectuels. Foucault en est, avec Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, entre autres, pour demander, à la suite de ce qui s'est passé sud-est asiatique, et notamment le génocide perpétré par les Khmers Rouges à Phnom Penh après leur victoire en 1976, demande à ce que, effectivement, les Boat People soient effectivement véritablement accueillis en France, et ils vont l'être. La dernière exception, c'est les réfugiés ukrainiens. Alors, en précisant là que, d'une certaine façon, c'est une double exception, parce que les réfugiés ukrainiens bénéficient de dispositions de l'Union européenne qui s'appelle la protection temporaire, qui est un dispositif dérogatoire à la procédure normale de l'asile. Je vais commencer par la première, parce que sinon on ne comprend pas en quoi elle est dérogatoire et en quoi elle est exceptionnelle. La procédure habituelle de l'asile en France suppose, un, d'obtenir de la préfecture la délivrance d'un papier attestant que la personne est demandeuse d'asile, sachant que la préfecture de police de Paris a été condamnée des dizaines de fois pour non-respect des délais et d'octroi du dit papier, lequel est évidemment absolument essentiel, parce que tant qu'un demandeur ou une demandeuse d'asile n'a pas ce papier, il est considéré comme un étranger en situation régulière. Ça veut donc dire qu'il est susceptible d'être passé dans un centre de rétention, ça veut donc dire qu'il est susceptible d'être expulsé dans son pays d'origine. Une fois que le demandeur a ce papier, il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et entendu par un officier de protection qui accorde ou n'accorde pas une protection internationale. Si cette protection est refusée, le demandeur a la possibilité de faire appel de la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. L'ensemble de la procédure peut prendre entre 2 et 3 ans. Elle est coûteuse sur le plan financier, il faut un avocat, elle est coûteuse sur le plan temporel, elle est extrêmement coûteuse sur le plan affectif, parce que ce sont des hommes et des femmes qui, pendant 3 ou 4 ans, vivent dans l'incertitude totale du sort qui va être le leur au sortir de la procédure. Sachant que celles et ceux qui ont subi des violences dans leur pays d'origine ont également subi des violences au cours du périple qui a été le leur, et qui, lorsqu'ils sont arrivés vivants en France, et ce dans les territoires de l'UE, après avoir traversé la Méditerranée, dont même le pape François a dit qu'elle était le plus grand cimetière marin du monde, dans la région parisienne, entre autres, hommes et femmes, certains vivent dans la rue, avec pour les femmes, évidemment, des risques d'agression sexuelle. Globalement, 98 ou 99% des femmes demandeurs d'asile qui arrivent en France ont subi des violences sexuelles, soit au départ et ou pendant leur périple. Les réfugiés ukrainiens bénéficient, eux, de la protection temporaire. Il suffit qu'ils arrivent sur le territoire français, qu'ils apportent la preuve qu'ils ont la nationalité ukrainienne et ils ont immédiatement droit au séjour, au travail, à la scolarisation de leurs enfants et à un soutien financier et matériel pour apprendre le français. La disposition de la protection temporaire a été adoptée après la guerre en la guerre en ex-Yougoslavie, non, justement, ce n'est pas la guerre en ex-Yougoslavie, c'est la guerre civile en Yougoslavie qui a provoqué l'ex-Yougoslavie, mais passons. L'idée étant de mettre en place, justement, au sein de l'UE, des mécanismes juridiques de protection très rapides pour faire face à un afflux massif de réfugiés. Si ma mère ne me trahit pas, je crois me rappeler qu'il y a eu le déclenchement d'une guerre civile internationale en Syrie qui a provoqué un afflux très massif de réfugiés en Europe. Comme par hasard, ceux-là n'ont jamais bénéficié de la protection temporaire. Et donc, on a affaire aujourd'hui relativement à cela. D'un côté, la protection temporaire accordée à des Européens perçus comme proches, parce qu'Européens, parce que partageant une même culture, etc., etc. Et là, le discours est très clairement assumé. Il y a eu un consensus extraordinaire des extrêmes droites jusqu'à une gauche éventuellement radicale. Et Louis Alliot, maire RN de Perpignan, qui connaît bien ses ennemis, c'est le B.A.B.A. quand on veut les combattre, et qui a eu cette phrase à l'endroit des réfugiés ukrainiens, « Patriotes de tous les pays, unissons-nous ». Évidemment, ça justifiait pour lui le fait que l'un des devoirs de la République française était de les accueillir dans de bonnes conditions. Même la SNCF, qui pratique les tarifs exorbitants que vous savez, a accordé aux réfugiés ukrainiens la gratuité des transports. Je n'ai jamais ouï dire que des réfugiés venant, des demandeurs d'asile, d'autres venant des Suds, comme on dit aujourd'hui, aient bénéficié de la gratuité des transports pour venir à la CNDA. Je fais une toute petite incise. Je n'ai pas l'habitude de faire étalage de mes mains, mais il se trouve que je suis aussi, éventuellement on pourra en discuter et vous pourriez m'en faire le reproche, mais juge assesseur à la CNDA désigné par le HCR, je le précise, et nous avons affaire à des demandeurs d'asile qui viennent éventuellement de Marseille, qui ont payé leur train et qui, parfois, avant la séance à la CNDA, ont dormi dans un square de Paris, se présentent à la CNDA dans ces conditions. Inutile de vous dire que, évidemment, ça contribue beaucoup à faire en sorte qu'ils arrivent dans de bonnes conditions. Bref. Donc, le maintien, effectivement, d'un côté, d'une véritable hospitalité d'État, mais qui fonctionne parce que ceux qui se voient accorder cette protection temporaire sont pensés comme des Européens, et de l'autre, la poursuite d'une xénophobie d'État, dont la dernière loi Asile et Migration est l'exemple le plus sinistre et le plus probant, pour ne rien dire ce qui, pour moi, est au fond une sorte de sommet de l'obscénité, parce que pendant qu'on panthénoïse Manouchian, les mêmes proposent de revenir sur le droit du sol à Mayotte. Ce qui est, faut-il le rappeler, absolument sans précédent, parce que là, on revient sur une disposition juridique qui date, excusez du peu, de la loi sur la nationalité de 1889. Cette inhospitalité d'État, j'estime qu'on est en droit de considérer qu'elle n'est pas uniquement une inhospitalité d'État, qu'elle est bien l'expression d'une xénophobie d'État et plus précisément encore d'un racisme d'État, parce que ce ne sont pas tous les étrangers qui sont victimes de cette politique, ce sont bien des étrangers en particulier et plus particulièrement les étrangers venus des Suds qui sont évidemment visés par cette politique. Troisième exemple. Je vais aller un peu plus vite sur la question de violence policière, mais qui, comme l'a dit Jupiter, n'existe pas. Enfin, globalement, il n'y a quand même que lui qui ne les voit pas, et enfin quelques autres, bien sûr. Violence policière, racisme institutionnel et ou racisme d'État. Je vais aller vite, je vais commencer par vous lire un texte. Je vous dirai après quelle est la nature du texte et qui l'a rédigé. Il faut bien ménager le suspense. Je cite. « La discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités, lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme. » C'est clair, c'est précis. C'est circonstancié, les rédacteurs prennent acte de l'importance particulièrement significative des discriminations raciales, etc. Ils la qualifient comme étant odieuse au regard de ses conséquences. Les mêmes écrivent « La pratique du contrôle au faciès est une réalité quotidienne. Une violation aussi flagrante des droits fondamentaux constitue, je cite encore, une faute lourde engageant la responsabilité de l'État. » Qui a écrit ces deux passages ? Sons, comme on disait autrefois, des militants d'extrême-gauche. Jacques Toubon, défenseur des droits, auquel je vais rendre hommage ce soir parce qu'il a rendu un rapport avant de quitter ses fonctions en juillet 2020, qui est un rapport absolument extraordinaire, qui, sur certains points, est beaucoup plus progressiste et beaucoup plus à gauche que certains qui se croient très à gauche. Non. Les textes que je viens de vous citer sont les textes un texte écrit par les juges de la Cour de cassation à la suite de la saisine de plaignants qui avait fait l'objet de contrôle au faciès. Autrement dit, les juges de la Cour de cassation considèrent qu'ils n'ont pas à condamner les fonctionnaires de police parce que ces fonctionnaires de police n'ont violé aucune disposition. Ils n'ont pas violé des ordres écrits et oraux. Ces fonctionnaires de police n'ont fait qu'appliquer une politique publique qui leur les contraint à effectivement pratiquer des contrôles au faciès. Et donc les juges de la Cour de cassation remontent à l'institution coupable, qui est bien l'État. J'ai donc la faiblesse de croire, mais évidemment la Cour de cassation n'emploie pas le terme, que lorsque la Cour de cassation estime que l'État doit, en raison des contrôles au faciès, être condamné pour faute lourde, que nous sommes bien en présence d'un racisme d'État, puisqu'un contrôle au faciès, c'est bien un acte raciste. Mais lorsque l'État le défend, c'est bien donc l'État qui est coupable et il est parfaitement normal qu'il soit pour cela condamné. 2021, même cause, contrôle au faciès, un enseignant du 9-3, comme on dit, a emmené ses élèves visiter des institutions européennes à Bruxelles, rentre gare de l'Est, arrive sur le quai, fonctionnaire de police très républicain, extrait de la classe, deux ou trois élèves, sur la base de contrôle faciès, tutoiement, fouille des bagages, palpation. La cour d'appel reprend les termes de la cour de cassation et condamne de nouveau l'État pour faute lourde. Petit problème pour les admirateurs béats de l'État de droit. Nous sommes dans une situation où l'État est en situation de récidive. Nous sommes dans une situation où l'État, de fait, est en situation de hors-la-loi, puisqu'il s'extrait lui-même de la loi. Et troisième élément, nous sommes dans une situation où l'État traite en chien crevé une condamnation définitive de la Cour de cassation et une condamnation définitive de la Cour d'appel, parce que, à ma connaissance jusqu'à présent, les représentants de l'État n'ont pas fait appel de la condamnation. C'est ce qui veut donc dire que cet État dit de droit, dans ce cas-là très précisément, s'extrait du droit qu'il est supposé respecter pour s'affirmer comme quoi ? Pour s'affirmer comme un État de police, qui n'a que faire du droit. Et d'ailleurs, il y a de cela deux jours, une enquête auprès des forces de police a montré que 52% des membres des forces de l'ordre considèrent qu'il est pour eux légitime de ne pas respecter la loi pour réaliser les missions qui sont les leurs. Autrement dit, on a bien affaire à un corps policier et gendarmesque dont les membres considèrent parfaitement légitime au regard aux fonctions qui sont les leurs de violer la loi pour pouvoir rétablir l'ordre lorsque l'ordre qu'il prétend défendre est attaqué. Par ailleurs, je ne vais pas faire la collation de l'ensemble des condamnations de la France, y compris par des institutions européennes pour traitements inhumains et dégradants, notamment à l'endroit de demandeurs d'asile, mais les condamnations sont importantes et significatives. Elles ont condamnation, alors là qui ne sont pas juridiques mais politiques, de la part de l'ancienne, je ne sais plus si elle est encore en fonction, mais je ne crois pas, présidente du comité des droits de l'homme de l'ONU, l'ancienne présidente chilienne Bachelet, qui, à l'occasion des manifestations en France, notamment des Gilets jaunes, avait demandé aux autorités françaises de modérer l'action des forces de police. Et rappeler, incise dans l'incise, et je vais, celui-là, il faut, enfin, vous avez sans doute l'opuscule qui est très intéressant. Texte très court, mais très important, me semble-t-il, pour plusieurs raisons, à la fois pour le contenu et pour la nature de l'auteur. Le texte s'appelle « Sans la liberté », l'auteur c'est François Sureau. François Sureau, avocat, académicien, il se dit qu'il est visiteur du soir d'Emmanuel Macron. Après tout, chacun a ses contradictions et éventuellement... l'illusion de croire qu'il part à l'oreille du président, ça le regarde, et qu'il est susceptible de le convaincre. Mais là, je pense qu'il doit déchanter sérieusement. Et dans « Sans la liberté », François Sureau dresse un panorama catastrophique, justement, des atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Et il commence son opuscule par une description de la tenue des forces de police en France procédant à un contrôle d'identité et où présent dans une manifestation parfaitement pacifique. Et où on n'a pas seulement affaire à des robocops, mais on a affaire à des robocops armés, utilisant armés de fusils, d'assaut, d'armes, de guerre. La France étant le seul pays au sein des États de l'UE où les forces de police et de gendarmerie peuvent, pour procéder à des contrôles d'identité et être présents lors de manifestations parfaitement pacifiques, avec des armes de guerre. Je rappelle quand même, parce que même Darmanin, alors soit par ignorance, j'ai eu la faiblesse de croire que ce n'est pas le cas, mais par démagogie et idéologie, fin de croire qu'il ne s'agit pas d'armes de guerre, alors que c'est qualifié comme tel dans le Code de sécurité intérieure. Les grenades de désencerclement et les maintenant désormais sinistrement célèbres LBD sont, dans le Code de sécurité intérieure, considérées effectivement comme des armes de guerre. Et François Sureau rappelle qu'effectivement, ce qu'il est convenu d'appeler la doctrine du maintien de l'ordre à la française est une des plus brutales au sein des États de l'Union européenne. Troisième et dernière partie, je voulais tester, si j'ose dire, et faire la différence, là, non pas entre racisme d'État et État raciste, pour aller à l'essentiel, au fond, un racisme d'État est parfaitement compatible avec les institutions démocratiques, la preuve. Là où un État raciste se structure sur la base de représentations qui repose sur une représentation hiérarchisée du genre humain et sur l'établissement d'un ordre politico-juridique double, l'un discriminatoire, raciste, opposable aux minorités racisées, quelles qu'elles soient, elles peuvent être considérées comme des races étrangères ou des races autochtones, ça n'a pas beaucoup d'importance, et un ordre juridique globalement garantissant les droits et libertés démocratiques fondamentaux pour ceux qui sont identifiés comme appartenant à la race dominante. Rapidement, je traite dans l'ouvrage d'une part de l'Afrique du Sud avant l'avènement de l'apartheid, parce que j'avais été frappé au cours de recherches antérieures et d'ouvrages antérieurs sur le fait que l'Afrique du Sud, avant 1948 et avant l'établissement de la République sud-africaine, était souvent traitée comme une sorte d'isola permettant, notamment dans le contexte français, d'opposer la méchante colonisation britannique reposant sur la mise à distance de l'indigène aux beautés immarcessibles de la bonne colonisation française, portée par la volonté, évidemment, d'apporter la civilisation à ceux qui, jusqu'à présent, n'en avaient pas bénéficié. Alors que on s'aperçoit que toute une série de dispositifs juridiques discriminatoires établis en Afrique du Sud avant l'indépendance sont des dispositifs qui ont été utilisés globalement dans l'Empire français, italien, espagnol, portugais et éventuellement allemand avant 1914. Je passe sur la question des États-Unis. Sans passer complètement, parce que j'introduis les États-Unis en reprenant un certain nombre de textes de Tocqueville. Je connaissais les textes de Tocqueville sur la conquête de l'Algérie, où Tocqueville se prononce très tranquillement pour la destruction des villes et des villages dans lesquels a pu résider Abdelkader et où Fond Tocqueville se prononce pour la guerre totale menée en Algérie. Il est un chaud partisan de la conquête de l'Algérie avec des méthodes particulièrement brutales. Lui, grand admirateur de la démocratie en Amérique, mais qui, contrairement à certains interprètes récents, je pense à Marcel Gauchet, pour n'en rien dire, est lui parfaitement conscient que la démocratie américaine repose d'une part sur l'esclavage et d'autre part sur l'extermination des populations autochtones, c'est-à-dire l'extermination des Indiens. Je rappelle que jusqu'en 1945, le terme extermination n'est pas un synonyme de génocide. Extermination désigne des massacres de masse. Et Tocqueville écrit dans un des chapitres les plus importants de la démocratie en Amérique, c'est le plus important du point de vue du volume, c'est le plus long, souvent le moins étudié, qui est un chapitre consacré au sort des Noirs esclaves et des Indiens. Et Tocqueville écrit relativement aux Indiens, lorsque les Américains sont arrivés sur la côte ouest des États-Unis, ce qui n'est pas le cas lorsque Tocqueville va aux États-Unis, lorsqu'il rédige de la démocratie en Amérique, il écrit, lorsque les Américains sont arrivés sur la côte ouest des États-Unis, les Indiens auront cessé d'exister. Tocqueville ne veut pas dire par là qu'ils auront été tous exterminés et génocidés, mais qu'ils ne résisteront plus que de façon résiduelle. Et Tocqueville est extrêmement attentif aux méthodes employées par la démocratie américaine pour son expansion. Spoliation des terres, contrat léonin passé avec des tribus indiennes, massacre, utilisation de la famine comme arme de guerre, comme arme d'expansion, nettoyage ethnique, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Tocqueville n'utilise pas la catégorie, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et enfin, alors je précise pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, la question d'Israël et de l'apartheid. Alors je précise que le manuscrit a été rendu avant le 7 octobre 2023. Alors, ce n'est pas parce que j'estime que ce que j'ai écrit est gravé dans le marbre et qu'il faudrait s'incliner pieusement devant la chose, mais si j'avais à reprendre le manuscrit aujourd'hui ou reprendre le texte, je ne modifierais pas la partie consacrée à l'apartheid. D'abord parce qu'elle me paraît alors là sinistrement corroborée, mais je reprendrai éventuellement, j'insisterai davantage sur ceci. Oui, nous sommes les témoins atterré de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Sauf que, et ce n'est pas du tout pour banaliser ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais ce qui se passe dans la bande de Gaza est au fond caractéristique des guerres coloniales. Si on prend la conquête de l'Algérie, par exemple, menée par le général Bugeaud, devenu maréchal de France, quand même, il faut bien honorer ces vaillants conquérants, la guerre menée par le général Bugeaud en Algérie est une guerre totale qui repose sur l'effondrement de la distinction entre civil et militaire, ce qui se passe exactement à Gaza. Et pour quelle raison la guerre menée à l'époque repousse à l'indistinction entre civil et militaire? Parce que Bugeaud comme Tocqueville sont parfaitement conscients d'une chose, c'est que la force d'Abdelkader n'est telle que parce qu'il peut s'appuyer sur la population civile. Soit parce que ces populations civiles l'aident d'un point de vue logistique, lui offrent refuge, couvert et alimentation, donc un soutien logistique très précieux, et évidemment un soutien politique. Et donc si on veut effectivement atteindre Abdelkader, il ne faut pas seulement s'en prendre à sa personne et à ses combattants, il faut forcément et nécessairement s'en prendre à la population civile qui le soutient. Donc, on massacre. Et on massacre pour faire quoi? C'est assumé comme tel, les termes sont employés à l'époque, on massacre pour, je cite, « refouler les Arabes ». C'est-à-dire faire place nette. Et pour être sûr de qu'on fasse place nette, que fait-on? On méconnaît la distinction entre champ de bataille et sanctuaire. C'est-à-dire, on s'attaque massivement, structurellement, aux infrastructures, villages, villes, oasis, qu'on détruit parfois de fond en comble, avec un objectif très clairement assumé, rendre la vie des populations indigènes après ces faits, au sens le plus matériel et le plus immédiat du terme, absolument impossible. Donc, ils sont obligés de partir. Et pourquoi Bugeaud et ceux qui le soutiennent procèdent ainsi? Parce qu'ils veulent faire déjà de l'Algérie une colonie de peuplement. Mais comment peut-on faire d'un territoire une colonie de peuplement tant que ceux qui vont être envoyés de gré ou de force dans cette colonie de peuplement n'ont pas l'assurance, alors ceux qui sont envoyés de force, peu importe, mais ceux qui vont y aller volontairement ne vont évidemment pas se rendre dans une colonie de peuplement tant que n'est pas assurée la sécurité de leurs biens et la sécurité de la personne, ce qui suppose d'assurer la sécurité totale du territoire conquis. Les conséquences en Algérie, ou avec utilisation de la famine, destruction des récoltes, destruction du bétail, déportation des populations civiles, un effondrement démographique. Globalement, il manque à l'appel fin 19e entre 1 million et 1 500 000 personnes. Mais effondrement démographique qui a eu lieu aussi dans les autres territoires colonisés. Si je rappelle cela, c'est non pas du tout pour banaliser ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, mais au contraire pour rappeler que notre effarement et notre indignation ne devrait pas se conjoindre avec une forme d'étonnement. Et en ce sens que, dès lors, encore une fois, que l'objectif de l'État d'Israël, c'est de poursuivre une politique de colonisation en Cisjordanie, de purification à Jérusalem-Est, et là, de purification ethnique à Gaza, cela passe nécessairement par ce type de moyens. Le but étant fixé, les moyens sont parfaitement adéquats aux fins poursuivies. Aussi terrible, évidemment, que cela soit. Et sur la catégorie d'apartheid, alors là aussi, exception française, sinistre celle-là comme les précédentes. Alors, je ne mythifie pas du tout les États-Unis, mais enfin, quand même, les États-Unis, c'est sans doute l'un des pays démocratiques où les mobilisations aujourd'hui en faveur des Palestiniens et pour exiger un cessez-le-feu permanent à Gaza sont parmi les plus importantes. Alors, pas dans tous les États, oui. Pas dans toutes les universités, oui. Certes, mais quand même. Nonobstant les positions de Biden, mais enfin, c'est autre chose. L'un des rares pays où est désormais perçu comme, présenté, et de fait la doxa officielle des extrêmes droites jusqu'à une certaine gauche, jusqu'au sommet de l'État, où antisionisme égale antisémitisme, il n'y a pas beaucoup d'autres pays européens, alors nonobstant l'Allemagne, pour des raisons évidemment très particulières, où l'équivalence soit à ce point forte, avec des effets de stigmatisation très importants, et pas simplement des effets de stigmatisation, mais aussi des effets en termes d'interdiction des manifestations de solidarité à Gaza, absolument sans précédent. Là, de ce point de vue-là, l'actualité le prouve aussi remarquablement. Le président italien, à la suite de la répression particulièrement violente d'une manifestation en soutien à Gaza, où les policiers ont matraqué l'un, a dit à peu près ceci. Il a défendu la liberté de manifester. Et il a tenu à peu près ce langage en disant « on ne traite pas la jeunesse à coups de matraque ». Je vous laisse faire la comparaison avec Jupiter. La catégorie d'apartheid, rappelez que il ne s'agit pas d'une catégorie morale, il ne s'agit pas d'une qualification morale liée à l'incapacité de ceux qui l'utilisent à maîtriser leurs affects et leur indignation. C'est une qualification juridique qui se fonde sur la Convention de 1973. Et par ailleurs, contrairement là aussi à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est une qualification juridique qui est utilisée en Israël depuis très longtemps, depuis au moins une vingtaine d'années. Je rappelle qu'il y a au moins deux journalistes du Haaretz en Israël qui l'utilisent. Pas eux seuls, mais rendant leur hommage parce que, Amira Haas, qui a été envoyée spéciale du Haaretz à Gaza, a pris des risques à la fois personnels et physiques importants. L'autre, Gideon Levy, est à ce point menacé en Israël qu'il est sous protection policière. Et que par ailleurs, je n'ai pas ouï dire que le Shin Bet soit infiltré par l'extrême gauche israélienne, qui de toute façon est parfaitement marginalisée. Des anciens dirigeants du Shin Bet utilisent la catégorie d'apartheid pour rendre compte effectivement de la situation faite aux Palestiniens à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et bien sûr à Gaza avant ce qui se passe. Là, le problème n'est même plus une situation d'apartheid à Gaza. C'est effectivement, on a affaire à minima à des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, vraisemblablement, c'est pas moi qui le dis, ce sont des rapports de l'ONU qui commencent à le dire, suspicion d'actes génocidaires. J'ai bien dit d'actes génocidaires, c'est encore différent d'un génocide. Ça peut évidemment conduire à un génocide. Mais tous les actes génocidaires ne débouchent pas forcément sur... Bref. J'ai mis un point d'interrogation, non pas... Enfin, parce qu'il me semble qu'en ces matières, il est préférable de ne pas procéder par affirmation péremptoire. Parce que d'abord, en général, ça ne convainc que les convaincus, les affirmations péremptoires, et d'autre part, parce que les affirmations péremptoires, au fond, c'est très pauvre intellectuellement. Et qu'il fallait essayer, au contraire, de montrer comment et en quoi nous sommes effectivement légitimes à considérer que la Convention de 1973 sur le crime de d'apartheid est adéquate, et montrer que... des ONG comme Human Rights Watch, B'Tselem, une organisation israélienne de défense des droits de l'homme, la Paix Maintenant et d'autres, sur la base d'enquêtes menées sur le terrain, considèrent maintenant et depuis un temps certain qu'effectivement ces ONG, et Human Rights Watch, c'est quand même pas exactement Amnesty International, pour ce qui est de la France, la CIMAD, estime que le recours à la catégorie juridique d'apartheid est parfaitement légitime. Enfin, je finirai parce que là-dessus, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas à prendre comme un argument d'autorité, mais c'est à prendre comme l'évolution de quelqu'un dont a priori on aurait pu penser qu'il n'aurait pas évolué dans ce sens-là, ce qui prouve que, comme disait l'autre, les faits sont têtus et que dans certains cas, ils sont à ce point têtus qu'ils conduisent certains à les reconnaître. Et celui auquel je pense, auquel je ne porte aucune estime pour des raisons que je vais rapidement expliciter, qui s'appelle Hubert Védrine, ancien conseiller aux affaires africaines de François Mitterrand, donc présent à l'Élysée en mai 1994. Je rappelle que le gouvernement et l'État français a été le seul État et gouvernement français à recevoir à l'Élysée des membres du gouvernement intérimaire génocidaire de Kigali. Le génocide avait commencé le 8 avril 1994. Nous allons, entre guillemets, en célébrer et en commémorer plus exactement le terme. Et plus juste, 30e anniversaire. Et donc, Hubert Védrine a signé dans un journal d'extrême gauche bien connu du soir, qui s'appelle Le Monde, une tribune avec cinq autres ministres des Affaires étrangères, en considérant effectivement que la situation faite par l'État d'Israël dans les territoires occupés, entre autres, mais pas uniquement, relevait de cela. Et enfin, lorsqu'il avait publié son rapport, ça avait suscité un tollé, y compris dans son propre parti. Un ancien ministre socialiste de l'agriculture, Jean Glavany, redevenu député, qui a été à l'origine, avec d'autres députés, d'un rapport parlementaire sur l'usage de l'eau par l'État israélien, ressource évidemment ô combien vitale, non pas seulement pour beaucoup de raisons, mais vitale dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et au terme de ce rapport, il avait estimé que la politique publique en matière d'eau conduite par l'État israélien relevait de la qualification d'apartheid, dans la mesure où étaient systématiquement privilégiés, évidemment, les citoyens israéliens, mais bien sûr aussi les colons, au détriment des populations palestiniennes. Je vous remercie pour votre écoute longue et patiente.
Alors, je vais faire passer le micro. Si vous voulez bien poser vos questions dans le micro.
Merci infiniment. C'est, j'ose pas dire rafraîchissant parce que c'est pas vraiment rafraîchissant, mais ça fait du bien en tout cas de se sentir soutenu, on va dire, par des gens qu'on estime. J'ai une question tout à fait... enfin, je ne sais pas comment la poser, mais j'aimerais savoir quelle est votre réception dans le milieu académique. Comment ça se passe? Voilà. Bon, vous avez parlé du wokisme, etc. Mais du coup, comment vous naviguez dans ces milieux-là?
Merci pour vos remerciements et le soutien réciproque, parce que je finis dans la conclusion, je vais la lire, parce que je trouve que c'est une très belle citation qui résume parfaitement à la fois, je crois, la situation qui est la nôtre. C'était pas la situation décrite par l'auteur. Mais, et il ne s'agit pas, si peu que ce soit, de faire croire que la situation de l'auteur en 1935, allemand, et la situation que nous connaissons aujourd'hui, mais les échos en sont, à mon avis, très importants et rendent bien compte de l'évolution de la situation qui est la nôtre et l'évolution de la situation politique qui est la nôtre. C'est Klaus Mann, en 1935, qui écrit ceci: « Notre plume est une arme bien faible et on ne manque pas de nous le faire cruellement sentir. » Mais il est de notre devoir d'en faire usage. Nous sommes peut-être impuissants, car notre époque déroule son terrible ordre du jour sans tenir compte de notre colère et de nos plaintes. On pourra donc plus tard nous reprocher d'avoir été impuissants, mais pas de nous être déshonorés. Et j'ai ajouté ceci, parce que j'aurais aimé en être l'auteur aussi, mais pas de chance, il est passé avant moi. Guy Ockenham qui disait « On n'est pas responsable de son temps, mais on est fautif de ne pas s'en dissocier ». Et ce livre est, bon, entre autres, fait pour signifier ceci, que ces temps ne sont pas les miens, ces temps ne sont pas les nôtres, que comment le dire, ouais, je vais le dire comme je l'ai écrit, parce que et donc comme je le pense. C'est que je pense que nos défaites culturelles et politiques sont consommées, très importantes, réitérées. Et j'ai donc la faiblesse de croire, et ce n'est pas par pessimisme ontologique. D'une façon générale, pour ces affaires en tout cas, j'essaie de n'être ni optimiste ni pessimiste. J'ai la faiblesse de croire que c'est plutôt du réalisme, là, en l'occurrence. Donc, je pense que nous sommes maintenant dans une conjoncture où, effectivement,
même si les conditions ne sont pas du tout celles qui avaient connu Klausmann et qui ont finalement conduit à son suicide, où globalement, nous étant un nous collectif, nous allons devoir nous battre dos au mur, et je pense pendant longtemps, et je pense qu'il vaut mieux le savoir, non pas pour baisser les bras, mais pour être capable de résister autant que faire se peut et le plus longtemps possible. Parce que je ne vois pas comment des effondrements politiques et juridiques à ce point important pourraient être rapidement réversibles. Le champ de ruines qui est celui des gauches politiques et en partie syndicales est un champ de ruines qui ne se remonte pas comme ça, d'autant moins d'ailleurs me semble-t-il que les involutions ne sont pas simplement nationales, elles sont internationales, et que ces involutions nationales se soutiennent d'involutions internationales réciproquement, et que l'extrême droitisation dont nous sommes les témoins atterrés et en partie impuissants, et pas simplement nationale, mais internationale, et que ça fonctionne maintenant comme un, du point de vue de ceux qui en sont à l'origine et en tirent les bénéfices politiques, ça fonctionne comme un cercle vertueux. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de ce qui s'est passé en Italie, avec l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, c'est pain béni pour qui vous savez, parce que, au fond, Giorgia Meloni fait la démonstration éclatante que l'arrivée d'une néo-fasciste au pouvoir en Italie ne provoque pas, pour le moment en tout cas, les effondrements dénoncés par certains, et qu'elle se coule jusqu'à présent dans les institutions démocratiques, elle se coule même dans les institutions européennes, parce que sur le fond, elle n'a pas besoin de rompre ni avec les institutions démocratiques, ni avec les institutions européennes pour continuer à mener une politique xénophobe. C'est même plus grave que ça. Les positions défendues par Giorgia Meloni en matière de xénophobie d'État sont désormais assumées comme telles par l'Union européenne, et pas simplement au sein de l'Union. À l'extérieur de l'Union, puisqu'on a assisté à ce voyage stupéfiant avec von der Leyen, Giorgia Meloni, en déplacement où ? En Tunisie, chez un président qui a repris à son compte la thèse du grand remplacement et qui considère que l'arrivée en Tunisie de migrants venus d'Afrique subsaharienne est susceptible de bouleverser la composition ethnique de la Tunisie, et qui est désormais un allié très important des politiques public xénophobe de l'UE dans le sud de la Méditerranée est pensé comme un allié essentiel parce qu'on va lui confier des missions de police plus importantes encore. Danemark, on a affaire à une coalition qui réunit des sociodémocrates et des représentants de l'extrême droite, entre autres sur la question des politiques migratoires. Et donc... Et bien sûr, Frontex, qui est l'instrument, bien sûr, de cette affaire. Et donc, pour répondre à votre question après son détour, dans l'institut universitaire, je suis en partie... jusqu'à présent, on peut y faire à peu près ce qu'on veut, la preuve. Et depuis longtemps, je suis un multirécidiviste, en l'occurrence. Globalement, je me heurte aussi à une censure qui ne passe pas par la censure, mais qui passe par l'invisibilisation et le silence le plus total. J'enseigne dans la même université depuis 30 ans. Je n'ai été invité qu'une seule fois pour présenter un de mes ouvrages. Mais bon, c'est une... c'est pas grave. Hein. Et je pense qu'il faut assumer... Si on n'est pas capable d'assumer cette... petite forme de marginalité, alors il faut faire autre chose. Quoi. Oui, ça m'arrive. Alors pas forcément, bien sûr, heureusement, pas forcément dans la même université. Dans la même université, c'est plutôt une indifférence qui n'est ni agressive ni bienveillante. C'est une indifférence, mais qui au fond me sied parfaitement parce que cette indifférence me permet de continuer à chercher sur les objets que je souhaite chercher et à publier ce que je souhaite publier. Donc je m'en accommode très bien.
Oui, tout d'abord, merci pour cet étalage de vos connaissances dans le domaine de la ségrégation sociale en France. Ça fait du bien. Mais il y a un jeune professeur en Seine-Saint-Denis d'histoire géo qui a écrit un livre qui s'appelle « L'hécatombe invisible » et qui raconte comment on meurt au travail en France dans l'impunité la plus totale pour les patrons, notamment le MEDEF. Et toutes les nouvelles lois scélérates imposées par Macron, Muriel Pénicaud, et que vous devez connaître. Et ça, vous avez fait un peu l'impasse sur ce qui se passe dans le milieu du travail, notamment chez les jeunes, dans l'apprentissage, etc. Voilà, c'est la question. Est-ce que c'était volontaire ou c'est que vous n'avez pas eu le temps de le mettre dans votre ouvrage ?
Alors, sur cette question, sur le fond... Alors d'abord, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés sur les différentes formes de racisme institutionnel, d'État, dans les différents secteurs. Sur le fond, il faudrait en faire une encyclopédie. Il faudrait faire ce qui avait été fait en son temps, lors du seul et unique quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'était une initiative collective qui s'appelait « Cette France-là » et qui a cherché à recenser et à analyser très précisément la politique xénophobe de Nicolas Sarkozy, mais bon, pendant les 5 ans de son quinquennat. Non. Alors, relativement à ce que vous dites, je ne l'ai pas traité là, parce qu'il se trouve que j'avais dirigé avec Omar Slaouti un ouvrage collectif qui s'appelait « Racisme et d'État au pluriel » et qui est paru en 2020, où la question des discriminations raciales au travail était abordée, mais au-delà et dans des secteurs où, a priori, ces discriminations sont soit peu connues, soit totalement niées. D'une part, alors, discrimination qui frappe, d'une part, les populations racisées qui fréquentent ces institutions, donc il y avait évidemment une contribution sur les discriminations raciale dans les écoles. Il n'en avait pas une dans les universités parce que faute de place, mais il serait évidemment important aussi de faire des recherches précises sur ce point-là. Il y avait une contribution sur les discriminations raciales au sein de l'institution hospitalière où il s'agissait d'une chercheuse du CNRS montrait que les discriminations raciales au sein de l'institution hospitalière frappaient et les patients racisés et le personnel médical, quelle que soit éventuellement sa hiérarchie dans la hiérarchie hospitalière, dans la mesure où à la fois infirmier d'origine étrangère ou étranger et médecin étranger ou d'origine étrangère sont effectivement massivement utilisés et en général massivement utilisés au rabais, oui, bien sûr. Enfin, en ce qui concerne les discriminations raciales au travail, là, les choses sont maintenant à la fois bien connues et étudiées depuis longtemps, notamment ce qui a été appelé la délocalisation sur place. C'est d'ailleurs l'idée que l'utilisation par le patronat, par de très grosses entreprises du BTP, c'est pas des petites, on ne parle pas de petites PME sur lesquelles les pouvoirs publics n'auraient pas de renseignements. Il a d'ailleurs été montré qu'à force de sous-traitance en cascade, une main-d'œuvre en situation irrégulière avait été utilisée pour rénover l'Assemblée nationale, enfin bref, des bâtiments publics où a priori le pouvoir public devrait y regarder de plus près. Et délocalisation sur place parce que, évidemment, les mal nommés clandestins travailleurs sans papier acceptent des conditions de travail particulièrement dégradées, des conditions de rémunération particulièrement dégradées, sont les derniers derniers embauchés et premiers licenciés. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs les licenciés puisqu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc ça facilite évidemment les choses. C'est au fond c'est la pointe la plus avancée, la plus radicale du libéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de contrat de travail. C'est-à-dire que, autrement dit, vous n'existez même pas comme sujet de droit. Vous êtes une pure force de travail qu'on exploite quand on en a envie et qu'on rejette quand on en a également envie. Enfin, pour des raisons de profit, bien sûr. Délocalisation sur place parce que, évidemment, étant sans papier, absence d'organisation syndicale ou très faible niveau d'organisation, et surtout parce que sans papier, de très grandes réticences à se mobiliser éventuellement individuellement et collectivement parce que la sanction peut être terrible, c'est-à-dire le placement dans un centre de rétention et l'expulsion dans son pays d'origine. Alors, je ne sais pas si c'est l'implicite de votre question. Mais sur un débat, parce que ça fait débat dans le champ académique, dans le champ politique, ça fait pas débat parce que ce qui dans le champ politique, c'est ça fait polémique. Comme l'écrivait Foucault, la polémique c'est pas un synonyme de débat, c'est même l'inverse du débat. La polémique est pas faite pour nourrir le débat, la polémique est faite pour stopper le débat, et puisque on déplace en général l'argumentation sur la personne de l'auteur ou de l'autrice. En se manquant à peu près de ce qu'il raconte et en cherchant à disqualifier ce qu'il dit, non pas sur le fondement de ce qu'il dit ou écrit, mais sur la base de l'imputation de ce qu'il est, ou de ce qu'on croit ou dit qu'il est. Mais sur la question de l'intersectionnalité, qui là, effectivement, divise dans le champ académique, divise dans le champ politique, syndical, associatif, et divise aussi dans le champ militant. Je rappelais tout à l'heure le rapport de Jacques Toubon. Peut-être est-il nécessaire de rappeler pour les plus jeunes ici qui est Jacques Toubon, ancien ministre de la Justice, RPR, ancien ministre de la Culture, RPR, ancien ministre de la Justice qui, lors d'une affaire mettant en cause l'épouse de Jean Tibéri, maire de Paris, a dépêché un hélicoptère dans l'Himalaya pour aller chercher un juge et le faire revenir à Paris et pour relancer les affaires afin de s'assurer qu'éventuellement elle ne serait pas poursuivie. Bref. Quelqu'un dont, a priori, avec lequel on n'a pas de proximité politique. Et je dois dire que lorsque François Hollande l'a nommé défenseur des droits, je trouvais la position scandaleuse. Je dois dire que si j'avais eu le plaisir d'être dessinataire du rapport et si Jacques Toubon m'avait demandé de le signer, non seulement je l'aurais signé, mais j'aurais paraphé toutes les pages. Jacques Toubon parle des contrôles faciès, etc., et parle de la question de l'intersectionnalité, qui fait bondir certains en rappelant de quoi il s'agit. Et estime, Jacques Toubon, donc, je vais rappeler là, Jacques Toubon estime que pour avoir une connaissance aussi précise et complète que possible, des discriminations, qu'elles soient fondées sur le genre, qu'elles soient fondées sur la race, qu'elles soient fondées sur la religion réelle ou imputée, il faut effectivement avoir une démarche intersectionnelle. C'est-à-dire qu'il mobilise, contrairement aux accusations de certains, il ne s'agit pas de substituer un critère de race à un critère de classe. Il ne s'agit pas de substituer un critère de race à un critère social. Il s'agit de conjuguer les deux, voire les trois. Je constate que, dès lors qu'il s'agit de mettre au jour les discriminations liées au genre, à peu près tout le monde s'accorde pour dire on ne peut pas, effectivement, s'en tenir, pour rendre compte de la situation des femmes dans la société et à l'emploi, un seul critère social. Il faut bien mobiliser un critère de genre. Sinon, on ne peut pas rendre compte des discriminations liées au genre. Et on ne peut pas objectiver ces discriminations, lesquelles sont parfaitement objectivées et objectivables, et débouchent sur ce grand constat, vive la République, que à diplôme et expérience égale, aujourd'hui encore, les femmes sont rémunérées entre 20 et moins 25%. Alors évidemment, on peut affiner l'analyse en disant oui, la situation des femmes richement dotées, comme dirait Bourdieu, en capitaux symboliques et en capitaux académiques et culturels n'est pas la même que des femmes qui n'en disposent pas. Merci, la découverte n'est quand même pas majeure. Oui, c'est important de le dire, assurément. Mais même les femmes disposant d'un important capital culturel et académique sont encore aujourd'hui victimes de discriminations qui les affectent et dont on trouve les traces dans... Enfin bref. Donc tout le monde, relativement aux discriminations féminines liées au genre, estime qu'il faut, comme M. Jourdain faisait de la peau sans le savoir, faire de l'intersectionnalité sans le savoir. Par ailleurs, on a maintenant affaire à une sorte de féminisme officiel où, et on ne va pas complètement s'en plaindre, où il y a toute une série de dispositions juridiques qui, effectivement, imposent aux entreprises de travailler à l'égalisation des salaires et de faire en sorte que les femmes soient dans le conseil d'administration. Bien. Relativement à la démarche intersectionnelle lorsqu'il s'agit de mobiliser des critères de race ou des critères religieux, comme par hasard, là, ça provoque des crispations pour le moins singulières. Mais... ce qui est singulier, c'est que ça provoque des crispations singulières. Parce que le critère de race soit absolument indispensable pour rendre compte de la situation particulière qui est faite aux immigrés, disons-le en ces termes, la découverte n'est quand même pas bouleversante. Elle a été faite notamment par André Michel, sociologue du CNRS, et qui publie un ouvrage très important dans les années 1950, on est en 1954, sur la situation des travailleurs nord-africains, principalement algériens. Algérien, français musulman d'Algérie. Donc français juridiquement, il faut rappeler quand même, cela était français juridiquement. Et elle montre dans son ouvrage, préfacé par un conseiller d'État, encore un gauchiste, un islamo-gauchiste sûrement, qui dans l'introduction montre qu'effectivement, les discriminations qui frappent ces travailleurs nord-africains, alors il ne peut pas employer le terme systémique parce que le terme n'existe pas, mais sont cumulatives. Emploi, salaire, logement, scolarisation, etc., etc., etc. Et là aussi, là encore, pour rendre compte de la condition particulière faite aux travailleurs immigrés, on est bien obligé de mobiliser un critère de race. Sinon, on ne comprend pas qu'effectivement, encore une fois, ils étaient et toujours, pour partie, les derniers embauchés et les premiers licenciés. Et qu'à la différence d'un travailleur français, bah, quand ce travailleur nord-africain, à l'époque, quitte les très glorieuses usines Renault, il échappe au racisme dans l'entreprise privée ? Non. Il est évidemment confronté au racisme de l'époque et à un racisme d'État. Il est confronté au racisme de la police. Et plus encore, après le déclenchement de la guerre d'Algérie. Donc, pour rendre compte de la situation de femmes racisées qui se voient imputer une religion, eh bien, il faut effectivement mobiliser toute une série de critères, sinon on ne comprend pas la situation particulière qui est faite à cela, à celle-là, en l'occurrence. Donc, Jacques Toubon se prononce relativement à ces affaires pour une démarche intersectionnelle, qui, je crois, est effectivement l'une des seules façons d'objectiver la situation très particulière faite à celles et ceux qui cumulent toute une série de stigmates et qui, cumulant toute une série de stigmates, se trouvent placés dans une situation, dans des situations qui affectent leur vie privée, leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur retraite, et qui tend à faire de leur existence ou à transformer leur existence en une sorte de destin précisément déterminé par le cumul de ces stigmates. Oui, et alors je ne suis pas spécial, mais je pense qu'on pourrait aussi montrer que l'application de la loi des dispositions relatives aux retraites vont avoir aussi des conséquences particulièrement délétères. Alors, délétères sur les femmes qui ont en général des carrières beaucoup plus hachées que celles des hommes, mais aussi éventuellement des conséquences délétères sur les carrières éventuellement aussi très hachées des travailleurs. Juste un point, parce que je suppose, enfin, vous me démentirez, nous avons sans doute, presque tous, j'imagine, ici, défilé en disant « travailleurs immigrés, travailleurs français, même patron, même combat ». En tout cas, moi, il m'est arrivé de défiler en criant ce slogan et en pensant que c'était le summum de la solidarité avec les travailleurs immigrés. Bah, pour m'apercevoir que non. Et parce que, en fait, le slogan tend à écraser quoi et à invisibiliser quoi ? Ben, très précisément que le travailleur immigré, il a certes le même patron, mais son combat ne peut pas être exactement le même qu'un travailleur français, précisément parce que lui est victime de discriminations liées à la race. Et que ces discriminations, encore une fois, elles ne s'arrêtent pas aux portes de l'usine, ou exactement, elles sont dans l'usine. Mais elles sont aussi à l'extérieur de l'usine. Et que ce travailleur racisé va, lui, personnellement, sa femme, ses enfants, quelle que soit leur nationalité, se heurter à des discriminations spécifiques liées à leur race et liées éventuellement à leur religion imputée. Et ce qui, pour moi, confirme là aussi la nécessité, d'une part, des approches intersectionnelles et permet, dans certains cas, de montrer, on va le dire gentiment, la cécité prolongée de certaines forces partisanes et syndicales progressistes.
On va prendre peut-être une dernière question.
Qui est une des armes du pouvoir raciste, c'est la laïcité. C'est-à-dire la transformation de la laïcité de 1905 en une règle discriminatoire de fait.
C'est le sujet d'une rencontre.
je voulais pas déflorer la rencontre. Donc
il donc, y a eu lieu.
Ah d'accord, pardon. Ok. Non, alors là, je n'en ai pas traité, mais il y avait effectivement. Alors, je n'en ai pas traité. D'abord parce que il y a beaucoup plus spécialistes que moi sur le sujet, et je vous renvoie aux bons auteurs. Et d'autre part, parce que dans Racisme, Racisme de France, la chose avait été en partie abordée et que, pour des raisons diverses et variées, je ne souhaitais pas la reprendre là, mais vous avez effectivement parfaitement raison que le consensus, d'ailleurs, tout à fait étonnant sur la laïcité qui va des extrêmes droites jusqu'à une certaine gauche mal nommée printemps républicain, c'est plutôt l'hiver, fonctionne maintenant effectivement comme rhétorique accusatrice, mais avec maintenant des conséquences particulièrement graves, parce que on est passé d'une situation où l'imputation, on est passé d'une situation où l'accusation était celle de communautarisme, à une situation où l'accusation est celle de séparatisme et où là, cette accusation est maintenant juridiquement établie. Avec les conséquences immédiates que ça a eues, il n'y avait pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que les premières victimes de cette disposition allaient être des associations musulmanes. Et effectivement, merci Darmanin d'avoir validé nos prédictions, puisque c'est évidemment la première association qui a été dissoute, c'est le CCIF. Et d'ailleurs, ils ont commis une toute petite erreur de communication au début, parce que je rappelle que la loi s'appelait au début loi contre le séparatisme, et qu'elle s'est évidemment appelée après loi pour renforcer les principes républicains. C'est quand même beaucoup plus beau de le présenter comme ça, bien sûr. C'est tout à fait intéressant, parce qu'il s'agit évidemment de défendre la République contre celles et ceux qui sont accusés, et c'est bien de ça qu'il s'agit, de faire peser une menace existentielle sur la République, sur l'intégrité de ses territoires, sur son unité nationale, sur la laïcité et, vous auriez pu me dire, sur la question de l'égalité homme-femme. Parce que maintenant, la question de l'égalité homme-femme fonctionne aussi comme critère de stigmatisation à l'encontre de certaines catégories de la population, raciales, racisées et religieuses, au motif que ces catégories racisées et religieuses seraient, elles, plus enclines à défendre un ordre patriarcal versus la grande tradition républicaine qui, comme chacun le sait, s'est battue depuis le 24 juin 1793 pour l'émancipation des femmes. Mais, enfin, je veux dire, là, on patauge dans la mythologie. Y a 10 conventionnels en tout et pour tout qui se sont battus pour l'égalité politique des sexes à l'époque de la Révolution française. Et quant aux femmes qui se sont battues pour l'égalité politique des sexes à l'époque de la Révolution française, la seule égalité qu'elles aient obtenue, c'est d'être jugées comme les hommes et passées par le rasoir national comme les hommes.
Merci beaucoup, Olivier. Merci à toutes et tous de votre présence. Et...
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.